Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord. Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour, une émission Cinérama un peu particulière déjà parce qu'il n'y aura pas Marine, enfin elle ne sera pas là dans les studios, mais elle a enregistré sa petite chronique sur Horns, film d'Alexandre Aja qui est sorti la semaine dernière. Et puis bien pour le sommaire, il sera question aussi bien de vampires. Manu, bonjour.
Bonjour. Oui, je vais vous parler donc du nouveau Dracula Untold, une sorte de préquel, parce que c'est un peu la mode de faire des films avant. Avant qu'il soit devenu Dracula, d'ailleurs.
Eh oui. Et ce sera l'occasion, d'ailleurs, hein, ce film, dont tu nous diras plutôt du mal, l'occasion de faire un blind test, donc de jouer avec vous, chers auditeurs. Hein. Vous aurez 5 extraits de films qui concerneront alors les vampires au cinéma. Et il suffira eh bien, de trouver le titre du film. Et comme toi, tu es un spécialiste des vampires, je pense que ça ira très vite. Et d'ailleurs, si tu ne fais pas 5 sur 5, tu ne reviendras pas la semaine prochaine.
Je quitte l'émission définitivement.
Voilà, tu quitteras l'émission. D'accord. Et puis, eh bien, tu nous parleras aussi bien dans ta série Polar des années 80 d'un grand film de Bertrand Tavernier, Coup de torchon.
Coup de torchon, adapté donc d'un roman de Jim Thompson, puisque je continue dans cette série des romans adaptés au cinéma par les Français dans les années 80. Donc je continue un peu cette chronique dans ce sens-là.
Et puis, eh bien, on va débuter avec The Tribe, c'est Cinérama.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Voici le grand prix de la semaine de la critique de Cannes 2014, The Tribe de Miroslav. Alors, c'est normalement Shlabo Spiskayi. Voilà, et je le dirai très peu, en fait, hein, pendant cette chronique, parce que à chaque fois, c'est une souffrance. Donc, c'est un supposé petit bijou, un film osé, avec sa dose d'habileté, et puis ses maladresses, quand même. Hein. On pourrait présenter The Tribe comme cela. Alors, osé, car il s'agit d'un film en langage des signes, et dont le spectateur n'a aucune traduction avec des sous-titres. Et ne croyons pas que les sourds et malentendants français sont vernis, hein, puisque chaque langue des signes est singulière. On peut retrouver plusieurs formes de langue des signes dans chaque pays. Aussi, ils peuvent sans doute déceler alors, quelques dialogues, mais pas la totalité, en tout cas, de la langue des signes ukrainienne. Sachant que, je crois, même en France, il y a deux types de langue de signes. Enfin, voilà. Donc, c'est très compliqué pour n'importe quel spectateur, en fait, de comprendre ce qui est dit dans ce film ukrainien, sauf, évidemment, pour ceux qui maîtrisent la langue des signes ukrainienne. Donc, voilà. Donc, ça, c'est plutôt osé, finalement. Maintenant, parlons de l'habileté du cinéaste. Alors, on peut prendre The Tribe de différentes manières. D'abord, chronologiquement, le film raconte le parcours d'un garçon sourd et muet, son arrivée dans une école adaptée et son départ quelques jours après. Mais le film prend prétexte hein, de cette arrivée dans l'école pour en faire une description de la violence qui est orchestrée par une sorte de mafia. Racket, prostitution, tabassage en règle, tout y passe. Des grands élèves aux profs de technologie, chacun cherche un moyen d'extorquer son prochain. Les plus grands s'attaquent aux plus petits, les plus nombreux eh bien, aux adultes non malentendants seuls à l'extérieur du lycée. Aucune morale là-dedans, on est loin du petit pensionnat modèle, tout se règle à coups de grandes baffes, coups de pied. Mais là où un film américain aurait plaisir à mettre de grands effets sonores, ici on a une bagarre avec plusieurs garçons tout en retenue. Le son est confiné et permettez-moi de vous faire écouter un extrait de ce son confiné. Voilà, donc Manu, hein, tu connais bien les films américains, tu imagines une baston dans un film américain, ça fait des bruits.
Oui,
et,
oui.
Et là, complètement différent. C'était une bagarre.
Ah, c'était une bagarre.
C'était une bagarre au cinéma.
D'accord.
Sachant qu'ils étaient 4 contre 1. Eh oui. Donc absolument pas spectaculaire. Voilà comment le son, finalement, est orchestré dans ce film The Tribe.
C'est intéressant. En même
très
temps,
intéressant, ouais. Très intéressant. Donc, au-delà de la langue des signes sans sous-titres, The Tribe se caractérise donc par son esthétique sonore. Nous avons affaire à des malentendants, mais le réalisateur ukrainien ne coupe pas tout le son, il l'atténue seulement, il nous fait entrer dans un monde que nous ne connaissons pas, sans pour autant nous en distinguer. Alors, s'il n'avait pas mis de son, c'eût été plutôt ennuyeux, voire enfin, peut-être expérimental, mais quand même ennuyeux, j'imagine. S'il avait gardé une esthétique sonore habituelle, tout son projet aurait manqué de finesse et la fin du film aurait perdu en intensité, parce que la fin se termine de manière tragique, voilà, sans faire de spoiler. Alors, au-delà du son, le film est construit avec 23 plans séquences, et pas un de plus. On a là une caméra au plus près de son sujet, le plus souvent une steadicam mobile, plutôt donc. Et autant dire qu'avec ces 23 séquences, eh bien, tout ce qui se passe dans le champ est prémédité. Donc, ça se voit un peu. C'est un côté un peu maniériste. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit le déplacement de caméra, on voit le déplacement des comédiens. Rappelons, enfin, disons-le plutôt, les comédiens sont tous amateurs. Ce sont tous des sourds-muets ukrainiens aussi. Donc, aucun acteur n'est professionnel. Alors ça donne évidemment énormément de fraîcheur au film, mais c'est un petit, parfois la mécanique se brise un peu parce que, par contre ça c'est dans les points faibles de ce film. Alors il a voulu tout montrer, c'est très réaliste, hein. Il y a du racket, il y a de la prostitution, et puis il y a des scènes d'amour, il y en a plusieurs parce que c'est aussi une petite histoire d'amour. Ce personnage qui arrive dans ce pensionnat, eh bien, tombe amoureux, et de la personne dont il ne faudrait pas tomber amoureux, ce qui fait que ça va l'exclure un peu du groupe. Et donc il y a des scènes d'amour, de nu, c'est d'ailleurs une scène de nu qui est présente sur l'affiche du film. Malheureusement, s'ils sont tous les deux nus, s'ils font l'amour, lui n'a pas d'érection. Et ça, je trouve que ça pose un vrai problème. Alors, on a l'impression que c'est très annexe.
Oui, mais c'est pas une généralité chez les sourds-muets, je pense, hein, de toute façon.
Absolument pas.
Qu'on n'interprète pas ça.
Mais quand on voit chez Godard qu'on est capable de mettre une prothèse à Denis Lavant, pour faire un sexe en érection, là, il est incapable de faire ça, et je trouve ça...
Chez Carax, tu voulais dire.
J'ai dit chez qui?
Chez Godard.
Chez Godard, non, je ne crois pas avoir de sexe en érection. Mais chez Carax, on en a vu chez d'autres réalisateurs. Voilà, et donc là la scène perd finalement en intensité, en véracité, parce qu'il y a un côté un peu documentaire, voilà. Et moi il y a une part de vraisemblance qui disparaît avec quelques séquences comme celle-ci. C'est pas seulement la nudité, c'est aussi d'autres séquences où j'ai l'impression bien qu'il perd ce côté véritable, voilà, de la séquence. Sinon, The Tribe est effectivement une expérience assez unique. Voilà, tu m'as dit que le réalisateur avait pris la grosse tête un peu, c'est possible.
Enfin, un petit peu, dans ce que j'ai lu que dans ses propos, il se réclame beaucoup. Alors, ces deux influences majeures, c'est peut-être pas très étonnant, c'est Gaspard Noé et Michael Haneke.
Ah bah, si on parle de Gaspard Noé, il montrerait facilement une érection.
Je pense.
Voilà, bah, il aurait dû prendre un peu cet exemple, ouais. Donc, The Tribe, quand même, c'est une expérience à suivre. Alors après, il y a des plans-séquences. Alors, qui dit plans-séquences, dit durée. Et effectivement, parfois, ça dure un poil trop, sachant qu'effectivement, avec la langue des signes, eh bien, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors lui, il dit que, bon, voilà, le signe, un peu à la manière de... Comme chez Pina Bausch, finalement, que le signe, finalement, peut réussir à faire dire des choses au corps. Mais parfois, on est complètement exclu de tout ce qui se dit. Voilà. Mais ça peut quand même suffire, même si on est dans son siège, il y a quand même un fil, voilà, qui se tient pendant les presque plus de 2 heures, hein, voilà, de ce film. The Tribe, encore au cinéma.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Alors avant d'être un vampire, hein, le comte Dracula, alias Vlad III de Valachie, était un homme, ben oui, comme vous et moi, comme toi, Vincent. Enfin, bon, pas tout à fait, puisqu'il était d'un rang et d'une race quand même supérieure. Hein. Il s'agissait d'un noble à la tête d'un empire et d'une armée au cœur de la Transylvanie au XVIe siècle. Alors Vlad, avec sa femme Mirena, son fils et les siens vivent une période de paix transitoire. Ils ont négocié cette accalmie avec le peuple turc. Mais comme rien ne dure, le méchant sultan Mehmet II va rompre ce pacte. Il demande à Vlad que... 1000 jeunes hommes de Valachi viennent s'engager dans l'armée turque, y compris son propre fils, afin de perpétuer la trêve. Alors Vlad refuse, rompant ainsi un pacte transmis de génération en génération. Il préfère alors faire appel à une force obscure, reclue dans les hautes montagnes rocheuses, avec qui il va sceller un accord faustien.
Mon père était un grand homme. Un héros, comme on dit. Mais le monde n'a pas toujours besoin d'un autre héros. Quelquefois, il a besoin d'un monstre.
Mon prince.
Comme tu m'as manqué.
Tu sembles préoccupé.
Le sultan se prépare au combat. Il veut 1 000 000 de jeunes gens dans son armée. Y compris votre fils.
Cours vers ta mère.
Ne regardez pas!
Tu ne peux pas nous protéger.
Je trouverai un moyen.
J'attends ici depuis une éternité. L'arrivée d'un homme aussi puissant que toi.
Welcome to your life.
Que désires-tu obtenir?
Le pouvoir de détruire mes ennemis et de sauver ma famille.
There's no turning back.
Bois, Dracula.
Welcome to your life.
Mais que t'arrive-t-il?
Je suis ce que redoutent les hommes, pas un fantôme, autre chose.
Et oui, Vlad va être transformé en vampire et donc acquérir une force surhumaine. Et il a 3 jours pour lutter et redevenir un homme. Mais s'il cède à la tentation, il s'enfoncera dans le monde des ténèbres pour l'éternité. Et comme c'est Dracula, bah on connaît la fin. Alors pas de suspense à l'horizon, les auteurs nous épargnent au moins d'éviter l'idiotie de sombrer dans un révisionnisme stupide. Par contre, comme dans Minette Express, je sais que ça n'a rien à voir, mais... Oui, oui. Mais les Turcs respirent la haine, ce sont de... ils cumulent toutes les tares de l'humanité. Alors, je ne connais rien en contexte historique, mais ne serait-ce pas un poil raciste, on peut quand même se poser la question. Ça fait un peu penser aux Spartiates dans 300, en fait. Hein. Mm. Bref, bon, petit aparté pour souligner quand même un petit côté un peu gênant dans le film. Alors, la mode des préquels continue, mais ne s'améliore pas. Franchement, Dracula Untold est l'exemple même du film inutile, hésitant sciemment entre le gentil film d'épouvante gothique et la timide fresque d'Heroic Fantasy. Alors, ça n'est pas très incisif et pertinent. Les auteurs essaient de rassembler un peu tous les publics. Hein. Pour les scènes sanglantes, vous pouvez repasser, hein, il n'y en a pas. Mais au final, ce Dracula ne semble destiné à personne. Alors, les bons points quand même. Hein. La direction artistique est soignée et offre aux spectateurs quelques très belles séquences, à la fois racées et très spectaculaires. C'est donc ce qu'il y a de mieux dans le film. Hein. Un film qui évite toutefois l'écueil de la grosse croûte numérique. Au moins, le film se tient vraiment visuellement. Mais il est quand même gâché par la niaiserie des dialogues et puis aussi une galerie de personnages tous plus insipides les uns que les autres. Enfin, il n'y a pas de très bons interprètes. Hein. À ce titre, d'ailleurs, Luke Evans, hein, il ressemble à la fois, je ne sais pas trop, entre Orlando Bloom et Emil Hirsch, l'acteur qui jouait dans Into the Wild. Mm. Alors je dis ça parce que alors Marine n'est pas là, mais elle m'aurait dit que non, pas du tout, j'en suis sûr. Enfin bon, c'est pas très grave. Ce qui m'amène surtout, c'est que les acteurs un peu de la nouvelle génération d'Hollywood, je trouve qu'ils se ressemblent absolument tous. Hein. Ce sont un peu des mannequins, des clones d'acteurs. Ils manquent vraiment de gueule. Ils sont pour moi interchangeables. Alors, je sais pas, peut-être que dans les années 70, on avait quand même des gens comme Christopher Walken, James Woo, Nicholson, Marlon Brando, Dustin Hoffman, Pacino. Alors, qui n'était pas beau objectivement, mais qui possédait quelque chose. Il ne faisait pas de pub pour parfum. Et là, j'ai l'impression que dans la nouvelle génération d'Hollywood, ce film-là montre vraiment, quoi, tous ces acteurs peuvent être absolument interchangeables. Mmh. Je pensais à ça en voyant le film parce que je m'y ennuyais un petit peu, en fait.
Voilà. Tu étais dans des considérations, oui, de casting.
Alors bon, après, on peut regarder ce spectacle un peu, son et lumière, d'un œil distrait, sans déplaisir, mais sans passion non plus. Ça m'a quand même donné envie de revoir tous les Dracula, de ceux de la Hammer avec Christopher Lee, au récent même Dracula de Coppola, qui est quand même d'un autre niveau. Hein.
J'imagine. Eh bien, ça tombe bien, hein, c'est une transition toute trouvée pour jouer un blind test spécial vampire au cinéma. Alors, autant dire qu'il y a plein de films, hein. Il y a les films, tous les films de la Hammer, mais il n'y en aura aucun de la Hammer. Voilà, c'est ceux qui ont suivi.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
Tout à fait clair. Donc, on va écouter un premier extrait. C'est assez facile. C'est un film très contemporain.
Comment tu as pu arriver aussi vite ?
J'étais juste à côté de toi, Bella.
Non. Tu étais devant l'entrée. De l'autre côté.
Je t'assure que non.
Je t'assure que si.
Bella, tu t'es cogné la tête. Tu dois confondre.
J'ai tout vu, j'étais là.
Bon, alors dis-moi ce que tu as vu.
Tu as stoppé ce van, tu l'as repoussé de la main pour l'arrêter.
De toute façon, personne ne te croira.
Je n'ai pas l'intention d'en parler. Je veux seulement savoir la vérité.
Si tu essayais de me remercier et d'oublier...
Je te remercie.
Tu n'as pas l'intention d'oublier.
Non.
Dans ce cas, j'espère que tu aimes les déceptions.
Alors, c'est Kristen Stewart qui est séduite par Robert Pattinson. Ce sont les voix françaises de ces deux acteurs. Et Manu, c'était évidemment...
Twilight.
Voilà. Et ça, c'était pris dans le premier film Twilight, puisqu'il y en a eu 5 quand même.
C'est le seul que j'ai vu et encore pas en entier, je crois. Ouais.
Moi, j'ai vu que celui-ci. Effectivement, ça m'a servi de leçon pour la suite. On écoute un nouvel extrait. Donc, il faut trouver donc un film de vampire.
Le sang et ses affections. Oui, telles que la syphilis, voilà ce qui nous intéresse. Leur nom même de maladie vénérienne, les maladies de Vénus, leur attribue une origine divine. En fait, elles trouvèrent naissance dans tous les problèmes sexuels dont le règlement éthique constitue le fondement de la civilisation judéo-chrétienne. En fait, la civilisation et la syphilisation ont progressé de concert.
Syphilisation, et c'est pas ça qui t'a permis de trouver. C'est peut-être la voix française d'Anthony Hopkins qui t'a mis sur la voie, c'est...
Le Dracula de Coppola.
Voilà, Francis Ford Coppola, non, film de 92.
Je me rappelle un peu de la séquence, en fait.
Ouais.
Mmh. C'est passé dans l'hôpital psychiatrique, non
Oui, bah, là, il fait un cours, hein, en fait. Hein, c'est Van Hensling, je crois. Hein, c'est
Van Hensling.
Ouais, voilà. Et donc, film de 92, 3 Oscars, mais 3 Oscars mineurs plutôt, hein, pour Francis Ford Coppola. Alors, l'intérêt de ce film, hein, c'est que c'était une mise en avant de l'aspect érotique du roman de Bram Stoker. Et puis, au casting quand même, on retrouve Gary Oldman, Keanu Reeves, Winona Ryder, Anthony Hopkins, et même Tom Waits et Monica Bellucci, qui apparaît, qui est une des servantes du comte Dracula. Ça a été la 9e place du box-office mondial des films sortis en 92, et ça a été 6e en France. Comme quoi, on aime bien Coppola. Ah non, un nouvel extrait.
As-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait endurer ? Tu as tué la femme que j'aimais, et tu as fait de moi une créature immonde.
On ne va pas en parler sans s'étendre.
Enfermé dans une boîte pendant 200 ans !
N'exagère pas, cela n'a duré que 196 ans.
Ça a duré une éternité. Je vais te faire juger pour sorcellerie, tu seras lapidé !
Pauvre chou de Barnabas. Les mœurs ont changé pendant que tu faisais ton gros dodo.
C'est pas le nom.
Oh, ben vas-y, tente.
Non, je pensais à Tim Burton.
Oui, Tim Burton, tout à fait.
Dark Shadows, c'est ça ?
Oui, c'est Dark Shadows.
D'accord.
Ouais. Ouais, on sent le côté un peu comédie. Hein. C'est Johnny Depp qu'on entend avec Eva Green en blonde sorcière. Donc là, voilà, lui, il est vampire et elle, c'est une sorcière. Et on retrouve... alors. Tout à l'heure, il y avait donc Tom Waits qui était dans le film de Coppola. Et là, c'est Alice Cooper qui joue son propre rôle dans le film de Tim Burton. Un nouvel extrait avec un film particulier.
La privation complète de sang humain au cours de cette période a entraîné une importante détérioration du lobe frontal. Les premiers signes de déformation physique ont été l'allongement des oreilles. Les fonctions mentales telles que la logique, les émotions, les facultés langagières dans leur presque totalité se sont détériorées beaucoup plus rapidement que vous et votre équipe ne l'aviez présumé, messieurs les docteurs. Là-dehors, ces rats de tunnels, ces créatures souterraines sont sur le point de devenir un vrai problème. Messieurs, nous sommes en train de mourir de faim. Et selon les dernières statistiques, il ne reste plus que 5% de la population humaine.
Ce dont il est question en ce moment, c'est de l'extinction de la race humaine.
Ce dont il est question, c'est le fait que nous avons à peine assez de sang pour nourrir notre population jusqu'à la fin du mois.
Ah oui, un conflit moral. Hein. D'un côté, il y a quelqu'un qui dit, bon, bah, le problème, c'est qu'il n'y aura plus d'humains. Et de l'autre côté, c'est simplement qu'on n'aura plus de nourriture. Donc.
Je ne sais plus.
Alors ça, c'est
je l'ai vu, hein, c'est sûr.
C'est un monde assez particulier, c'est Daybreakers.
Ah oui, avec Ethan Hawke.
Avec voilà, Ethan Hawke, oui. Tu parlais bah, des acteurs hésité, avec une sacrée gueule. Il y a Willem Dafoe qui joue donc un ancien vampire qui a réussi à guérir de sa vampirisation, je ne sais pas comment on dit, et qui a une partie de la solution hein, pour que l'humanité revienne.
C'est presque un film post-apocalyptique, en fait.
Oui, hein, tout à fait. Mais une très belle réussite. Hein. Moi, j'avais été vraiment bluffé par ce film, Daybreakers, de Peter et Michael Spierig. C'était sorti en 2010 et on termine avec un dernier extrait.
Mais qui vous a dit qu'il y avait un bal ce soir?
Personne, j'allais deviner. Vous avez un si grand château, c'est possible, je crois.
Ainsi, il l'a deviné, mais c'est juste. Il l'a deviné juste avec sa petite tête d'ange. Oui, Alfred, ce soir a lieu notre bal annuel. Jusqu'à l'aube, vous pourrez danser. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Qu'est-ce que vous serrez là dans vos petites menottes? Donnez, montrez-moi. Alfred, montrez-moi.
C'est un manuel de séduction, hein. Je crois qu'il a dans ses petites menottes. Donc, eh bien, là, c'est un vampire homosexuel, ce qui est bon, assez rare, mais pas si rare. Il paraît que dans les films de la Hammer, il y avait aussi ça. Donc,
oui,
tu as trouvé...
c'était plus un sous-texte. Que des...
Oui,
voilà, c'était pas clairement annoncé
voilà. Là, c'est
comme
clairement.
Ça. Là, c'est clairement annoncé, donc c'est le bal des vampires de Polanski.
Film de 67, donc on retrouve des vampires qui ont des qualités spécifiques, hein, donc effectivement homosexuels, juifs, et puis il y en a même un qui est sourd, enfin voilà. Bon, c'est assez particulier. Le titre original, alors ça j'ai trouvé, je ne savais pas. C'était, il y avait un titre et un sous-titre, il y avait The Fearless Vampire Killers.
Puis il est très long, le
or,
titre.
Or, pardon me, but your teeth are in my neck. Voilà, donc tes dents sont...
Plantées dans mon cou.
Dans mon cou, ouais. Voilà, donc c'était la fin de ce blind test spécial vampire. Évidemment, j'ai exclu plein d'autres films, mais un autre blind test pourra revenir d'ici l'année de Cinérama. Hein.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors, Marine n'est pas là aujourd'hui, mais elle a pu enregistrer sa chronique sur Horns, film d'Alexandre Aja. On l'écoute.
Alexandre Aja, le réalisateur de Horns, appartient à ce petit groupe d'élus appelé dans les années 2000 à venir fouler le sol californien comme une poignée d'autres réalisateurs français. Après être un petit peu égaré ou amusé, selon le point de vue, dans le remake de La Colline à des yeux ou encore Piranha 3D, Aja semblait trouver avec Horns un bon compromis entre grosses productions américaines au relent fantastique et inspiration personnelle. L'histoire est celle d'un jeune DJ dans une petite bourgade de white trash que l'on accuse un jour du meurtre de sa fiancée. Il n'a aucun souvenir, un sérieux penchant pour la bouteille, ce qui conduit vite la ville à se liguer contre lui, persuadé de sa culpabilité. Esselé, il peut à peine compter sur le soutien de ses anciens amis d'enfance et se débat seul pour tenter de prouver son innocence. Jusqu'au jour où il se réveille avec deux cornes sur le front. Non seulement les habitants de la ville ne semblent pas être surpris outre mesure de sa transformation, mais pire, ils se confessent à lui sans pouvoir s'en empêcher et se mettent à lui avouer leurs pensées les plus sordides et leurs péchés. La première demi-heure est ainsi plutôt originale et enlevée, versant même dans un humour gris presque noir, mais hélas, ce qui aurait pu être un conte fantastique en forme de critique corrosive de l'Amérique puritaine ne restera qu'une esquisse du film que l'on aurait aimé voir, puisque la suite ne tiendra malheureusement pas ses promesses.
Je vais t'aimer jusqu'à la fin de ma vie.
Aime-moi déjà jusqu'à la fin de la mienne.
J'aimais votre fille. Tu as tué cette jeune fille innocente. Maintenant le diable te réclame. Qu'est-ce que c'est?
Tu parles des corps?
Je dois découvrir qui a tué Mary.
Qu'est-ce que ça fait d'être libre après une accusation de meurtre?
Tout le monde devient dingue dans cette ville. C'est à cause de moi et ces putains de corps.
Je lui aurais jamais fait de mal.
Dis-moi tout ce qui s'est passé.
Ce sont des cornes?
De satanées cornes.
Il est assez étrange et dommage de constater qu'un Français puisse réaliser un film aussi américain, au mauvais sens du terme. Chaque plan est d'une conventionnalité plombante, chaque phrase de dialogue d'une banalité à pleurer, et chaque situation est tellement téléphonée que l'on en devine immédiatement l'issue. Seul un plan de tête qui explose surprendra quelque peu le spectateur en deux heures de film, unique rappel de l'ADN horrifique du réalisateur. On ne pourra pas lui reprocher le sous-texte religieux plutôt ambigu, qui n'ose ni être satirique, ni franchement prosélyte, puisque Horns est adapté du roman éponyme. Mais il aurait quand même pu modifier quelque peu le scénario, de sorte que celui-ci ne sombre pas dans la mièvrerie la plus totale au cours d'un final aussi convenu que naïf. Quant aux acteurs, eh bien, ils achèvent d'achever le film, Juno Temple, bien que dans ce studio, certains lui vouent un culte sans appel, continue quand même d'avoir la voix la plus insupportable de Hollywood. Just love me for the rest of mine. La plupart des comédiens, surtout les enfants, jouent à la façon d'un téléfilm à bas budget, et Daniel Radcliffe, qui comptait sans doute beaucoup sur ce rôle de DJ alcoolique dévoré par la vengeance pour réorienter sa carrière, ne sort pas franchement du lot, hormis le fait qu'il porte assez bien les cornes. Donc, je ne le conseille pas du tout, c'est même plutôt une grosse déception.
Ainsi parlait Marine. Toi, Manu, t'as un avis un peu différent.
Je nuancerais. Alors, effectivement, il y a un petit côté un peu cato, un peu pudibon dans le film qui est un peu pénible, mais je trouve que c'est un film assez schizophrène et je trouve qu'il y a un côté mal élevé qui rend le film assez agréable. C'est un film qui met à mal un peu la sacro-sainte famille, les gentils habitants d'une petite bourgade. Et je le trouve plutôt réjouissant, quelques scènes gore rigolotes. Et puis pour une fois, là, j'assors un peu de ses remakes, parce qu'il n'a fait quasiment que ça aux États-Unis, entre Piranha, La Colline des Yeux et même Mirror, qui était un remake d'un film coréen. Et donc je le trouve plutôt sympa, voilà, plutôt sympa. Et les cornes n'ont rien à voir avec qu'il soit cocu, même si à un moment donné on y pense, parce que c'est un peu ce qui lui arrive.
Horns, donc d'Alexandre Aja, est actuellement dans les salles. Tout de suite, coup de torchon.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi ?
Alors à l'origine, il y a un bouquin génial, noir, tranchant, très drôle, d'une modernité incroyable. Alors ce livre s'appelle en français 1275 âmes, parce qu'en anglais c'est 1280. On a perdu 5 âmes en traversant l'Atlantique. Allez savoir pourquoi. Alors Jim Thompson, c'est vraiment un génie. Il est au roman noir ce que Faulkner est à la littérature classique. Il pratique une langue complexe, fascinante, dotée de plusieurs niveaux de lecture, qui pour le coup me fait regretter de ne pas être anglophone. Alors la notoriété de Thompson, très peu connue de son vivant, s'est imposée grâce au cinéma, qui s'y intéressa tardivement, mais régulièrement. Alors on peut citer parmi les films les plus connus, Guet-apens de Peckinpah, Série noire d'Alain Corneau, Les arnaqueurs de Stephen Frears, et récemment, il y a eu The Killer Inside Me de Michael Winterbottom. Alors Stanley Kubrick aussi a fait appel à ses services, puisque c'est lui qui a signé le scénario de l'ultime razzia, et il a réécrit une partie aussi de Spartacus. Donc c'est pas quelqu'un qui est complètement qui est en dehors du cinéma.
Pas seulement
en fait,
romancier, oui. Voilà.
Alors Tavernier, lui, ne semblait pas de prime abord le cinéaste idéal pour s'approprier l'univers de Thompson. Alors en dépit d'un très sombre et réussi Juge et l'Assassin, alors le côté, ça n'engage que moi, un peu lisse, très qualité France de son cinéma, qui pouvait risquer d'arrondir les angles, d'aseptiser une écriture cinglante. Mais Tavernier a eu une idée de génie en lisant « Voyage au bout de la nuit » de Céline, l'action de 1275 âmes, donc coup de torchon, située à l'origine au sud des États-Unis et déplacée au cœur de l'Afrique coloniale à la fin des années 30. Alors cette intuition est bénéfique sur tous les plans. Tavernier a ensuite confié à Jean Orinch l'écriture du scénario avec qui il avait déjà travaillé auparavant, notamment sur l'horloger de Saint-Paul, et le résultat est quand même stupéfiant. Alors cette histoire de Lucien Cordier, minable représentant de la loi humilié par son entourage et qui décide de se venger, est d'une drôlerie et d'un nihilisme assez peu commun au sein de la production hexagonale. Mais avant de se venger, il ne cesse aussi d'annoncer cette pensée tout droit sortie, on va dire, pas d'une brève de comptoir, mais qui est très amusante. On écoute premier extrait.
Tu sais, Fetnat, cette nuit, je dormais pas. J'étais allongé, les yeux grands ouverts, en train de me retourner jusqu'à en devenir marteau. Voilà, tout à coup que j'en ai marre. Et je me dis, tu vas finir par tourner en bourrique à force de te tourmenter. Ce qui fait que j'ai réfléchi tant que j'ai pu, jusqu'à en avoir mal au ménage.
Finalement, et finalement, j'ai pris une décision. C'est que je ne savais foutre pas ce que je pouvais bien faire.
Alors Lucien Cordier, c'est un pauvre type, mais qui sait pertinemment qu'il est un pauvre type et ne cherche aucune justification dans ses actes. Alors sa prise de conscience, c'est aussi son salut, mais sa fin aussi. Il se sent déjà mort et il pense que dedans, son beau-frère, sa femme, sa maîtresse et toute une bande de crétins racistes et autosatisfaits méritent leur sort. Seule une institutrice, sorte d'incarnation presque symbolique de la pureté, mérite le respect à ses yeux. Alors, ce n'est pas un film d'autodéfense, hein, même s'il peut y ressembler. Hein, on est dans l'exact opposé d'un film comme Le Vieux Fusil. Hein. Aucune justification de l'autojustice, pas d'empathie vis-à-vis du personnage. Hein. C'est un film que je trouve... C'est un film noir, vraiment cinglant, brillant. Enfin, les dialogues sont fantastiques. Les comédiens, mais tous fabuleux. Alors, je n'ai pas assez de place finalement.
Il y a Jean-Pierre Marielle.
Gérard Hernandez, Eddie Mitchell, ouais. Isabelle Huppert dans un contre-emploi absolument excellent, elle est d'une drôlerie absolue.
Qui est mariée à Marc Ayoub.
Marc Ayoub, oui, c'est vrai.
Un être ignoble.
Mais ils sont tous ignobles. Hein. Ouais. C'est ça un peu la force du film, c'est que tous les personnages sont absolument ignobles, sauf cette institutrice. Hein. Mais c'est presque ironique. Et le film, il y a même un côté à la lisière de l'onirisme, du surréalisme parfois, avec cette lumière très, très, très lumineuse qui tranche avec les codes en fait, habituels du film noir. Enfin, je le conseille parce que c'est vraiment un film vraiment formidable et qui n'a absolument pas vieilli.
Oui, ouais, je pense aussi. Et avec un Noiret, là pour le coup...
C'est peut-être son meilleur rôle. Hein.
Oui, je pense.
C'est son meilleur rôle. Ouais. Il n'a jamais été aussi bon. Cabot est pourtant génial.
C'est là où je me suis dit que... Enfin, je crois qu'après avoir vu ce coup de torchon, j'ai regardé beaucoup de films de Noiret en me disant « Mais quel acteur quand même, c'est assez remarquable. » Parce qu'il joue l'espèce de Benet qui n'a pas l'air de comprendre ce qui se passe, mais en fait qui maîtrise tout.
Ouais.
Assez remarquable. Coup de torchon de Bertrand Tavernier, c'était dans la série Polar des années 80.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
C'était Cinérama. On ne retrouvera pas Marine la semaine prochaine. Voilà, elle avait enregistré une chronique et une seule. Elle reviendra dans quelques semaines. Sinon, on devrait écouter Tony Gatliff la semaine prochaine pour son film Geronimo dans Cinérama. À bientôt.
À bientôt.
Cinérama. Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.